Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 6 octobre 2016. Bonjour. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Mali, une double attaque des djihadistes a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés.
En Zambie, arrestation de Hakainde Hichilema, candidat malheureux à la récente élection présidentielle.
En Syrie, l'armée a annoncé une réduction de ses bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep.
Le Portugais Antonio Guterres est assuré de succéder à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, une double attaque contre des soldats gouvernementaux dans la région de Tombouctou et sur l'axe Douensa-Bambara-Maoudé a fait au moins 3 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Ces attaques s'ajoutent à celles qui ont été perpétrées récemment contre la MINUSMA dans la région de Kidal. De toute évidence, nous dit notre correspondant à Bamako Kassim Traoré, les djihadistes n'ont pas encore été anéantis au Mali.
2 casques bleus tués à Kidal, 4 soldats maliens dans la région de Tombouctou, c'est le bilan des récentes attaques djihadistes contre les militaires maliens et les soldats de la MINUSMA au Mali. Si les soldats maliens sont encore tombés dans une embuscade sur l'axe Tombouctou-Goundam, faisant 1 mort et des blessés graves, sur l'axe Douanza-Bambara-Maoudé, c'est une explosion de mine qui a occasionné la mort de 2 militaires maliens, faisant au moins 5 blessés. Leur véhicule qui était en patrouille dans la zone a sauté sur une mine. Les civils aussi sont la cible des djihadistes. Le 2e adjoint au préfet de Goundam a été blessé. Il devrait rejoindre Tombouctou pour une rencontre. Alors qu'une escorte devrait l'amener, il a préféré faire chemin avec les représentants du conseil des cercles. C'est ainsi que des hommes lourdement armés se sont pris aux missionnaires entre Acharan et Tinteloute, en les dépouillant de tout ce qu'ils avaient sur eux, des téléphones portables, des documents de travail et autres objets en nature. Après, ils ont été maintenus comme des otages en recevant des coups de crosse. Par inattention de leurs surveillants, les 2 hommes ont pu s'échapper jusqu'à la voie principale où un véhicule de forêt a fini par les acheminer à Goundam. Pour bon nombre d'observateurs, ces récentes attaques illustrent à souhait le fait que les djihadistes ne sont pas anéantis au Mali. Même s'ils n'ont plus la même force de frappe, force est de reconnaître qu'il existe tout de même sur le terrain au Mali, coupant le sommeil aux soldats maliens et autres casques bleus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le candidat malheureux à la présidentielle zambienne du 11 août a été arrêté hier dans le centre du pays pour, je cite, « incitation à l'insurrection et rassemblement interdit », a annoncé la police. Les précisions de John Linden.
Hakainde Hichilema, leader de l'opposition zambienne, a été interpellé avec Geoffrey Mwamba, le vice-président de son parti. Les 2 hommes sont soupçonnés d'incitation à l'insurrection et d'avoir organisé un rassemblement interdit le 26 septembre à Mbongwe. Ils comparaissent devant la justice ce matin. Selon la police, 60 d'opposants qui protestaient contre leur arrestation ont également été interpellés. Lors de la présidentielle du 11 août, le président sortant Edgar Lungu avait devancé d'à peine 100 000 voix M. Hichilema. Ce dernier s'est présenté pour la 5e fois à la magistrature suprême et depuis dénonce la réélection du président sortant. Il estime que le scrutin était truqué et tous ses recours ont été rejetés par la justice zambienne.
Bubona Tshuto, ancien chef de la marine bissao-guinéenne, emprisonné aux États-Unis pour trafic de drogue, devrait être libéré et renvoyé dans son pays en 2017. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
José Americano Bubo Natuto a été condamné par le juge new-yorkais Richard Berman à 4 ans de prison. Selon la porte-parole du procureur fédéral de Manhattan, il a déjà purgé l'essentiel de sa peine et devrait être libéré en avril 2017 et renvoyé en Guinée-Bissau. Monsieur Natuto avait été capturé en mer par des agents de l'agence antidrogue américaine, la DEA, au large du Cap-Vert, début avril 2013. Il avait ensuite plaidé coupable l'année d'après du chef d'accusation de conspiration pour importer des substances contrôlées. Son arrestation, comme l'inculpation 2 semaines plus tard du général Antonio Indaji, patron de l'armée, avait illustré la montée du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest et de la place centrale de la Guinée-Bissau dans ce trafic. Le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest avait néanmoins souligné fin 2015 que le pays avait fait des progrès dans la lutte contre le narcotrafic depuis l'élection du président José Mario Vaz en 2014.
Soudan du Sud, une ONG américaine accuse les casques bleus de la MINUS d'être restés dans leur base plutôt que de protéger les civils pendant des combats à l'arme lourde début juillet à Juba. Selon le Civic Center for Civilians in Conflict, certains casques bleus ont abandonné leur poste au sein des sites de protection des civils où des dizaines de milliers de Sud-Soudanais se sont réfugiés au fil des combats qui déchirent leur pays depuis décembre 2013.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, l'armée a annoncé une réduction de ses bombardements sur les quartiers rebelles d'Alep. Ces derniers étaient visés sans relâche par le régime et son allié russe depuis le début d'une vaste offensive il y a 2 semaines. À noter que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, se rend à Moscou aujourd'hui, puis à Washington demain, pour pousser un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur un nouveau cessez-le-feu à Alep.
Une joute diplomatique opposée hier, la Turquie et l'Irak, au sujet de l'offensive attendue pour libérer Mossoul, le bastion du groupe djihadiste État islamique dans le nord de l'Irak. La dispute porte notamment sur le déploiement de troupes turques près de Mossoul, une présence à laquelle s'oppose fermement le premier ministre irakien Haider al-Abadi, qui a dit craindre une guerre régionale. La Turquie a exprimé à plusieurs reprises ces derniers jours des réserves sur une éventuelle participation à cette offensive de milices chiites ou de groupes armés kurdes hostiles à Ankara.
La marine israélienne a dit avoir intercepté sans violence hier le bateau des femmes qui se dirigeait vers les côtes de la bande de Gaza. Leur objectif était de briser le blocus maritime, terrestre et aérien imposé depuis 10 ans par Israël. Une quinzaine de femmes de diverses nationalités, dont le prix Nobel de la paix, la nord-irlandaise Mairead Maguire, se trouvaient à bord du Zaytouna Oliva, un voilier qui était parti de Barcelone, en Espagne.
En Colombie, le président Juan Manuel Santos a assuré que la paix en Colombie était proche après avoir reçu mercredi les opposants à l'accord avec les FARC. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour réclamer la fin de la guerre. M. Santos s'est longuement entretenu avec deux de ses prédécesseurs, Andrés Pastrana et Álvaro Uribe, son plus farouche adversaire et leader de la campagne du non au référendum de dimanche qui s'est traduit par un rejet de l'accord avec la guérilla marxiste des FARC.
Le Portugais Antonio Guterres est assuré de succéder à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU. Après un vote informel hier au Conseil de sécurité, il pourrait être élu aujourd'hui pour succéder au Sud-Coréen qui a fait 2 mandats de 5 ans. Eddie Isango.
4 grandes puissances ont émis hier un vote favorable et une a été sans opinion. Mais aucun des 5 membres permanents n'a voté contre Antonio Guterres. L'ambassadeur russe Vitaly Churkin, qui dirige les conseils de sécurité ces mois-ci, a déclaré que M. Guterres était clairement les favoris. Il a annoncé un vote formel ce jeudi pour confirmer ses choix par acclamation. 10 candidats étaient en lice et les Portugais ont terminé en tête des 5 premiers. Après les faveurs des 15 membres du Conseil de sécurité, les candidats retenus devront aussi recueillir les votes favorables de l'Assemblée générale avant de prendre ses fonctions le 1er janvier prochain. Antonio Guterres, 67 ans, a été Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002, puis patron pendant 10 ans du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ingénieur de formation, fervent catholique, il s'est décrit comme un homme d'action et s'est battu sans relâche pour les droits des migrants.
Ici aux États-Unis, le FBI a arrêté en août un salarié d'une entreprise travaillant pour la National Security Administration, l'accusant d'avoir volé des informations secrètes. La nouvelle n'a été annoncée qu'hier. La police fédérale tente de déterminer si le suspect est lié à la fuite récente d'outils de piratage utilisés par Washington pour pénétrer des réseaux adverses russes et chinois, rapportent des responsables. Selon un responsable américain qui a requis l'anonymat, le suspect, Harold Thomas Martin, 51 ans, travaillait pour Booz Allen Hamilton. Cette firme comptait Edward Snowden parmi ses employés au moment de ses révélations fracassantes sur les méthodes de l'agence de renseignement en 2013.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco avec Nani Talani.
La présidence nigériane a confirmé la mise en vente de 2 avions appartenant au gouvernement nigérian dans un contexte de crise économique et de restrictions budgétaires mises en place par le président Muhammadu Buhari. La vente de ces 2 jets de luxe devrait rapporter près de 20 millions d'euros. Les comptes de l'État nigérian sont au plus bas avec la chute du prix du baril du pétrole qui représente 70% des revenus et les nombreuses attaques sur les infrastructures pétrolières dans le sud du pays. La Côte d'Ivoire prévoit d'investir près de 900 millions d'euros dans des infrastructures de transport et de stockage de produits pétroliers afin de devenir le plus grand marché pour le commerce du pétrole en Afrique subsaharienne. La compagnie chargée du stockage va investir 420 milliards de francs CFA pour se doter d'ici 2020 de capacités de réserve de 1,5 million de mètres cubes. La dette publique et privée dans le monde a atteint un montant sans précédent l'an dernier, au point d'être plus de 2 fois supérieure à la richesse économique créée sur le globe, a prévenu le FMI hier mercredi dans un rapport. En excluant le secteur financier, l'endettement global s'élevait fin 2015 à 152 000 milliards de dollars, soit 255% du produit intérieur mondial. Cette flambée tient principalement au secteur privé qui a profité à plein de l'ère de l'argent pas cher alimentée par les politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Rigobert Song, finalement transféré vers la France.
Soigné depuis dimanche à Yaoundé suite à un AVC, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a été évacué vers la France. Selon nos confrères de Foot Africa, c'est sous les yeux d'une grande foule venue lui apporter son soutien que Rigobert Song a été transféré de Yaoundé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi. L'ancien défenseur et actuel sélectionneur de l'équipe A est sorti du coma et son état inciterait à l'optimisme selon ses proches.
Match amical entre l'OM et les Lions Indomptables du Cameroun.
Oui, un but partout lors de ce match amical à huis clos ce mercredi au centre d'entraînement de l'OM. L'ouverture du score a été l'œuvre des Camerounais. Elle est intervenue par Vincent Aboubakar à la 28e minute sur pénalty. L'Olympique de Marseille, où Lassana Diarra a joué 68 minutes pour la première fois depuis plus d'un mois, a égalisé à la 34e minute par Rolando.
Qualification mondiale 2018, Amérique du Sud. La pression sur l'Argentine sans Messi.
Oui, l'Argentine doit se reprendre au Pérou sans Messi après son nul chez la lanterne rouge vénézuélienne au sein d'un trio de têtes composé avec l'Uruguay et le Brésil. Le Brésil qui a l'occasion ce jeudi de se détacher en tête de ce groupe. Les 3 premiers affrontent les 3 derniers, mais seule l'Argentine jouera à l'extérieur. Et ce sera encore une fois sans son capitaine Lionel Messi blessé. La dernière fois, le voyage s'était mal passé pour l'Albiceleste avec un 2-2 humiliant au Venezuela face au traditionnel petit poussé régional qui avait même mené 2-0.
Enfin, un cadre des All Blacks privé de match pour être allé aux toilettes avec une jeune femme.
Oui, coupable de s'être rendu aux toilettes avec une jeune femme dans un aéroport, le demi de mêlée Aaron Smith, cadre des All Blacks, a été écarté du prochain test match de la Nouvelle-Hollande pour avoir enfreint les règles de bonne conduite de la fédération. Le joueur sera entendu pour mauvaise conduite par une commission d'enquête à son retour en Nouvelle-Zélande.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'impasse politique persiste. Le mandat du président Joseph Kabila se termine le 19 décembre et il est presque impossible d'organiser des élections d'ici là. Le dialogue national est boudé par une partie de l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi qui veut un dialogue inclusif sans le facilitateur Edem Kodjo. Quelle solution de sortie de crise ? Idriss Fall, adjoint à Bruxelles, Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
C'est totalement inacceptable d'imaginer M. Kabila au pouvoir au-delà de décembre prochain. La coalition des Congolais pour la transition appelle M. Kabila à se ressaisir et à quitter immédiatement le pouvoir, conformément à l'exigence de la loi fondamentale de notre pays, la Constitution. Étant donné que les élections ont échoué à cause de la mauvaise foi du gouvernement, le faux dialogue a également échoué. La coalition des Congolais pour la transition va procéder d'ici novembre par les consultations de toutes les forces politiques et sociales pour mettre sur pied un gouvernement intérimaire du salut public.
Ce serait sortir du cadre légal, un gouvernement de transition sans avoir aussi la Constitution avec soi.
Justement, la Constitution, dans l'alinéa premier de l'article 64, nous donne cette prérogative pour sauver la République démocratique du Congo du chaos actuel. Donc nous avons le choix entre laisser le Congo disparaître et nous réunir, nous tous, issus des forces réellement acquises au changement au Congo, dans ce gouvernement du salut public qui va, de façon pacifique, conduire aux vraies élections dans un délai de 24 mois minimum et 36 mois maximum.
Vous parlez de 2 ans alors que la CENI quand même propose 500 jours.
Oui, la CENI propose 500 jours sur instruction de M. Kabila. Nous demandons à M. Kabila, la communauté internationale a également demandé à M. Kabila de se prononcer clairement sur son avenir politique, d'apaiser la tension en disant « Écoutez, j'ai épuisé mes 2 mandats et je vais quitter le pouvoir ». M. Kabila ne veut pas le faire, il préfère instrumentaliser la CENI et la Cour constitutionnelle qui sont essentiellement animées par ceux qui sont les proches conseillers de M. Kabila et nous ne pouvons pas l'accepter. Personne n'a le droit de replonger le Congo dans un chaos. Ils ont géré et ça suffit. Ils doivent quitter le pouvoir avant qu'on allonge la liste des martyrs.
Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
La grève des fonctionnaires, travailleurs du public, enseignants et étudiants continue au Tchad, où le gouvernement a ordonné des réformes draconiennes pour tenter de sortir de la crise économique. Les enseignants ont fait savoir au gouvernement qu'ils ne reprendraient pas le travail tant que leurs arriérés de salaire ne seront pas ajustés. Nathalie Barge a joint la porte-parole du gouvernement, Madeleine Alengue, disant que le Tchad compte sur ses partenaires pour sortir de l'impasse financière.
Depuis la fin août, le 31 août exactement, le gouvernement du Tchad a pris des mesures de réforme d'urgence vis-à-vis d'une situation, d'une crise financière qui est due effectivement à la chute du prix du baril et également à l'engagement que l'État a fait sur plusieurs fronts de la lutte antiterroriste dans la région à emmener le Tchad à une crise financière aiguë. Et en cela, le gouvernement demande à ce que toutes les populations et toutes les couches socio-professionnelles puissent comprendre la situation difficile du gouvernement vis-à-vis de cette crise.
Les syndicats réclament des arriérés de salaire. Quelle est la réponse du gouvernement à leurs revendications ?
Le gouvernement est dans la recherche de la stabilisation de la situation financière du pays et dans ce sens-là, toutes les recherches, tous les besoins de stabilisation sont mises en œuvre pour donner aux gens satisfaction. Le gouvernement a prôné des dialogues sociaux pour essayer d'établir un canal de communication qui puisse stabiliser la situation.
Alors de nombreux syndicalistes et opposants ont pointé du doigt notamment des problèmes de corruption par rapport aux finances. Est-ce que le gouvernement s'est intéressé à ce type de cas et a tenté notamment de redresser certaines situations s'il était nécessaire de le faire ?
Le chef de l'État, Son Excellence M. Président, visionne une restructuration générale de la procédure de l'administration. Donc ce sont des aspects qui sont également touchés. La tension sociale fait qu'on focalise sur certains aspects, mais je crois que c'est vraiment toute l'administration, une restructuration globale qui est pensée par le gouvernement.
Je reviens sur les arriérés de salaire. Est-ce bien légitime de geler des salaires pendant 2 mois lorsque l'on a des problèmes économiques ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où l'on pourrait retenir ou en tout cas prendre cet argent ?
Le gouvernement fait tous les efforts possibles pour pouvoir combler ces espaces-là. Et d'ailleurs, dans les efforts que le gouvernement fait, nous allons vers nos partenaires économiques et financiers qui, à la considération de l'effort que réalise le Tchad dans la paix et dans la stabilisation de la région, espèrent également recevoir cette assistance et cette aide qui lui permettra de couvrir ces acquis sociaux qu'elle a signés avec ces populations.
Madeleine Alenge, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Pour en savoir plus, notamment sur la révision des critères d'attribution des bourses d'étudiants, rendez-vous sur VOA Afrique pour l'interview dans son intégralité.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'Afrique a-t-elle connu des progrès depuis 10 ans en matière de gouvernance globale ? La Fondation Mo Ibrahim répond oui. Amélioration notamment au niveau du développement humain, des droits de l'homme, du climat des affaires et de la lutte contre la corruption. Mais les Africains sont moins en sécurité qu'il y a une décennie, d'après un rapport de la Fondation. Y a-t-il eu effectivement des progrès dans votre pays ? Votre quotidien s'est-il ainsi amélioré ? Ou au contraire, les questions de sécurité ont-elles pris le dessus sur de tels progrès ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi, à 19h10.
Pénurie de gaz butane au Niger. Les distributeurs ont cessé toute activité depuis des jours pour exiger du gouvernement le rétablissement d'une subvention de l'État. Cette pénurie affecte durement les populations habituées à cette source d'énergie depuis 2011. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est au siège d'une des sociétés de distribution de gaz que nous avions rencontré Mohamed Dada. Il est venu, dit-il, à la source parce qu'en ville, il n'arrive pas à recharger sa bouteille de gaz de 12 kg.
Depuis hier, je suis en train de chercher du gaz. J'ai fait plusieurs points de vente, j'ai pas eu de gaz. Maintenant, je suis même à la source, quoi, au Niger Gaz. Ils m'ont dit qu'ils sont en grève. Donc nous, on ne sait pas maintenant où est-ce qu'on va retourner, au charbon, au bois. Donc vraiment, ils nous ont gâtés avec le gaz maintenant et ça coupe.
Mohamed Dada repart donc bréduit et déçu. Il y a beaucoup comme lui qui sont dans cette situation.
Il n'y a pas de bois et encore il n'y a pas de gaz. Comment on va mourir où, hein?
Une situation qui risque de perdurer, les professionnels du secteur gazier étant apparemment déterminés.
C'est un truc vraiment illimité. Tant que le gouvernement n'a pas pris une bonne décision, nous au niveau du GPG, les sociétés de gaz, on est incapable vraiment de continuer à ravitailler le gaz.
Mahmoud Ali est le président du groupement des professionnels du gaz nigérien.
Ce qui nous a amené à
arrêter nos activités, c'est que nous vivons d'un problème depuis 2011, depuis que le prix a été arrêté, depuis le démarrage de la raffinerie. Avant le démarrage de la raffinerie, le gaz était subventionné par un fonds qui a été créé pour ça, qu'on appelle fonds de l'énergie. Bon, malheureusement, depuis ce démarrage-là, le fonds de l'énergie n'a jamais accompagné. C'est comme si ce sont les sociétés qui sont en train de subventionner le gaz à la place de l'État. On tourne à perte. Ce qu'on vend ne nous permet pas de payer notre principal fournisseur. Donc on était obligé d'arrêter. Et vous savez, un privé, ce qui le pousse d'arrêter une activité, c'est que c'est vraiment grave.
Pourtant, selon les défenseurs des droits des consommateurs, la solution est très simple. Youssouf Hamadi, président de l'Association de défense des droits des consommateurs.
Nous avons effectivement écouté les gaziers, ils nous ont expliqué leur problème. Et le problème est très simple. Ou on subventionne le gaz, ou on va au prix réel du gaz.
Ce prix réel tournerait autour de 6 000 francs CFA pour la bonbonne de 12 kg qui est actuellement vendue à moins de 4 000 francs CFA. Si donc la subvention n'est pas reprise, c'est ce prix réel que les distributeurs menacent de pratiquer, sauf qu'au Niger, les prix sont fixés seulement par l'État depuis le début de la production pétrolière. Les consommateurs demandent alors aux deux parties de bien vouloir s'entendre. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Présidentielle américaine 2016, après l'unique débat des candidats à la vice-présidence mardi à Farmville en Virginie, l'attention se porte à nouveau sur les deux candidats à la Maison-Blanche. Le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton s'affronteront dimanche dans le Missouri lors de leur deuxième débat et la question sur toutes les lèvres et de savoir si Donald Trump saura imiter l'approche disciplinée et très remarquée de son colistier Mike Pence. Les détails avec Timothée Donangmaï.
Comme à son habitude, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton se prépare activement pour le deuxième débat prévu le dimanche 9 octobre. Ainsi qu'il l'a fait la dernière fois, le républicain Donald Trump continue de battre campagne. Dans un discours mercredi à l'Académie chrétienne internationale, une école chrétienne de Las Vegas dans le Nevada, il a déclaré qu'une victoire de Mme Clinton en novembre mettrait en danger la liberté religieuse en Amérique. Il s'est félicité de la prestation de son colistier Mike Pence lors du débat de mardi, le créditant de la plus écrasante victoire qu'un candidat à la vice-présidence puisse remporter.
Le face-à-face de dimanche entre les candidats à la Maison-Blanche sera un forum citoyen où les candidats répondront aux questions d'électeurs indécis. Tim, c'est un cadre naturel pour Hillary Clinton, mais son adversaire Donald Trump n'en a pas l'habitude. A assuré John Podesta, président de l'équipe de campagne de l'ancienne secrétaire d'État.
Donald Trump fera-t-il preuve dimanche de cette discipline et de cette affabilité qui a permis à son colistier Mike Pence de conquérir de nombreux Américains? Les républicains comme les démocrates attendent de savoir ce qu'il en sera. Une telle discipline lui donnerait un air beaucoup plus présidentiel, notent les observateurs. Au premier débat, Mme Clinton a maintenu son adversaire sur la défensive, s'en prenant à son refus de publier sa feuille d'impôt, à ses attaques contre les femmes ou encore à toutes ces années où il a nié la citoyenneté américaine du président Barack Obama. Pour ne pas arranger les choses, le New York Times a publié trois pages de la feuille d'impôt 1995 de Donald Trump montrant qu'il avait déclaré des pertes de 916 millions de dollars cette année-là et que cela lui aurait évité de payer des impôts pendant près de deux décennies. Donald Trump doit être mieux préparé et agir d'une manière présidentielle, lui conseille le politologue Jeffrey Skelly de l'Université de Virginie. Reste à savoir s'il saura se contrôler, a souligné Skelly. Il en a besoin. Divers sondages donnent à la démocrate Hillary Clinton une avance dans plusieurs États et 80% de probabilité de devenir la première présidente des États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.